Cette description de ce moment fort hein, pour Moïse, ses neveux, et puis également ses 70 anciens d'Israël et Josué, eh bien, ces moments forts qu'ils vont vivre sont là aussi des moments clés pour leur propre vie, mais également, bien sûr, pour la suite concernant le peuple d'Israël. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler aussi que nous voulons, nous aspirons, nous pouvons aussi vivre ces moments forts dans la communion avec notre Dieu. Et il y a trois étapes, hein, trois moments importants, là aussi, qu'on va redécouvrir ensemble. Le premier temps fort, Exode 24, 9 à 11, hein, c'est ce moment où Moïse, avec Nadab, Abihu, ses neveux, Aaron, et puis donc 70 anciens, bien, c'est ce moment où, ensemble, déjà, bien, ils vont saisir, ils vont vivre quelque chose qui va marquer leur cœur, puis ils vont voir le Dieu d'Israël. Ils vont voir le Dieu d'Israël. Il semble que ce moment ne dépasse pas une journée. Il semble que ce moment soit assez court par rapport aux 6 jours que vont vivre Moïse et Josué, par rapport aux 40 jours et 40 nuits. Le détail est important, parce qu'il semble que Moïse, pendant 40 jours et 40 nuits, ne va pas dormir, ne va pas manger, ne va pas boire. La présence de Dieu est tellement intense. Mais ici, il semblerait que ce premier temps soit un moment assez bref, assez court, une journée. Mais même si Dieu avait demandé qu'il soit contemplé de loin, ces 70 anciens, Aaron, Nadab, Abihu, et Josué, eh bien, vont vivre déjà un moment important puisqu'ils vont voir le Dieu d'Israël et ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Première pensée pour nous ce matin, nous pouvons avoir aussi des moments de qualité avec Dieu. On sait que dans nos rythmes trépidants d'emploi du temps surchargé, on peut parfois, eh bien, dans une journée, ne pas toujours alors. On va se dire, oui, il faut prendre le temps, etc., bien sûr, mais il y a des moments dans nos journées, etc., où c'est pas toujours facile de prendre ce temps. Je crois que Dieu ici, bien sûr que nous sommes appelés à prendre du temps avec lui, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce que nous devons privilégier, ce que Dieu veut privilégier, ce sont des moments de qualité avec lui. Des moments de qualité, là on dira, il a suffi d'une petite journée pour que ces hommes soient imprégnés, impressionnés par la présence de Dieu. Un temps de qualité où ces hommes vont vivre quelque chose de particulier. Et Dieu nous rappelle ce matin que dans nos journées, dans nos emplois du temps, bien nous sommes appelés à prendre, je veux dire ça comme ça, les meilleurs moments pour avoir un temps avec lui, le meilleur moment pour se mettre à part, pour lire la parole de Dieu, pour prendre un temps avec lui. Alors bien sûr qu'on peut prier n'importe où, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, et on bénit Dieu pour ces temps où nous pouvons nous exprimer, que ce soit dans la voiture, en partant au travail, que ce soit le matin ou le soir, on peut s'exprimer et de privilégier parfois aussi des moments de qualité dans son intimité avec lui. Il y a certains frères et sœurs qui sont du matin, d'autres qui sont de l'après-midi, d'autres qui sont du soir, d'autres qui sont de rien du tout, hein, ni du matin, ni du soir, ni de l'après-midi. Mais j'oserais dire, trouvons notre rythme dans notre quotidien, dans nos semaines, dans nos mois, et dans nos années. Et même parfois, ces moments peuvent évoluer en fonction de la famille. Donc, quand on est célibataire, on a plus de loisirs, de possibilités d'eux. Et puis se marier, les enfants bouleversent parfois nos emplois du temps. C'est pas toujours évident. Mais Dieu nous rappelle, à travers ce bel exemple, qu'il veut privilégier avec nous des moments de qualité, des moments de qualité. Où dans sa présence, eh bien, nos cœurs vont pouvoir être épanchés, on va pouvoir ressortir imprégnés, impressionnés de cette qualité de Dieu. Et Dieu peut nous surprendre. Dieu peut nous surprendre par des moments de qualité. Dieu parfois peut nous surprendre dans des moments où on ne s'y attend pas du tout. On réserve, on prend un moment dans la présence de Dieu, et puis là, Dieu va nous visiter de manière extraordinaire. Je me souviens d'un moment où Dieu nous a surpris. J'étais jeune converti et c'était dans les années 82 ou 83. Je faisais un stage BAFA, voilà. Hein, je voulais servir Dieu parmi les enfants et donc on était au Chambon-sur-Lignon dans un stage BAFA. Et puis donc, je crois que c'était le premier stage et on avait fait une soirée cirque. Voilà, on nous a demandé de faire une soirée cirque et bien sûr, moi, j'étais déguisé en clown. Donc voilà, j'avais fait le clown toute la soirée. Et puis après cette soirée cirque, on a juste voulu remercier le Seigneur pour la soirée. Et là, il y a une visitation du Saint-Esprit. Je pense que ça a duré deux, trois heures. Et le clown que j'étais, bien maquillé, vous imaginez, hein, a bien pleuré. J'avais du maquillage partout. Enfin, je veux dire, vous connaissez ça peut-être, mesdames, avec ce que vous mettez sur les yeux. J'en ai partout. Mais on avait été visité par le Saint-Esprit. Même en clown, même à l'issue d'une soirée cirque, excusez-moi hein, l'expression, Dieu peut nous surprendre par des moments de qualité, par des moments où il va nous visiter. Alors, laissons le Seigneur nous surprendre. Lorsque Dieu convoque ses anciens, ils ne savent pas du tout à quoi ils s'attendent. Et pourtant, Dieu va privilégier un moment de qualité. Et ce matin, je suis convaincu que bien Dieu veut continuer, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous surprendre par des moments de qualité. Il voit, c'est extraordinaire, hein. Moïse dit, c'est comme une œuvre en saphir. Il a du mal à avoir un objet de comparaison, il dit, c'est comme une œuvre en saphir, c'est comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ce qu'il voit l'impressionne tellement qu'il n'arrive pas à mettre des mots, il dit, c'est une comparaison qui est bien en dessous de la réalité. Rappelons-nous quand même que le saphir, j'ai regardé sur un dictionnaire, hein, ça a une couleur, hein, plusieurs couleurs, mais il semblerait ici que ce soit une couleur bleu transparente, enfin on n'est pas trop dans les couleurs, mais c'est une couleur qu'on retrouve sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il y avait un saphir qui représentait aussi le peuple de Dieu. C'est une couleur aussi qu'on retrouve dans le fondement des murailles de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21-19. Et ça nous parle de la gloire de Dieu, ça nous parle de sa royauté, de sa majesté. Et ce matin, Dieu privilégie avec nous des moments de qualité, où on va être impressionné par sa présence, par sa sainteté, par sa beauté, par sa majesté, par sa royauté. Quelle grâce ce matin de pouvoir en faire partie. Amen. De privilégier avec notre Dieu des temps de qualité. Et puis, deuxième bonne nouvelle, ces moments de qualité vont nous faire vivre et ne vont pas nous faire mourir. N'ayons pas peur de la présence de Dieu, n'ayons pas peur de sa sainteté, n'ayons pas peur de sa majesté, de sa royauté dans nos moments d'intimité avec lui. Dieu ne va pas nous faire mourir. Ou s'il nous fait mourir, c'est nous mourir à nous-mêmes. Mais ici, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que dans la pensée juive, on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. C'est impossible. D'ailleurs, Dieu dit au peuple, attention que le peuple ne s'approche pas de ce lieu. Parce qu'à ce moment-là, cette montagne va devenir le marchepied de Dieu, la gloire de sa sainteté, etc. Et Dieu dit, n'approchez pas parce que vous allez mourir. Et dans cette crainte, on peut comprendre que le peuple, bien sûr, s'en éloigne. On se souvient de la déclaration de Manoac, le futur père de Samson. Hein, lorsque l'ange de l'Éternel se présente à lui, il dit à sa femme, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Alors sa femme qui est un peu sensée lui dit, écoute, hein, si t'es encore là en train de me le dire, c'est que Dieu t'a pas fait mourir. Donc, et Manoac s'est rendu compte que, en tout cas ici, il y a quelque chose qui nous étonne et nous surprend, c'est que bien entendu, il est dit que après cette vision, ces anciens qui virent Dieu, puis ils mangèrent et puis ils burent. Ils vont se réjouir. Même si ces hommes ont vu Dieu de loin malgré tout, eh bien, ils vont continuer à se réjouir. Le repas, ici, c'est le symbole de la fête. On peut imaginer aussi un petit peu, hein, physiologiquement, quand ils sont dans la présence de Dieu, à mon avis, physiquement, ça a dû se ressentir, ils ont dû être impressionnés. Comme dans l'ancienne alliance, les prophètes voyaient Dieu, certains tombaient comme morts. Il y avait quelque chose, et après une telle émotion, spirituelle, physique, émotionnel, eh bien, ils ont besoin de force. Ça va leur être donné par un repas, servi sur place, mais ça va leur être aussi transmis dans leur corps, dans leur âme. Ils vont profiter d'un temps de réjouissance. Ils vont se réjouir. Ils vont ensemble, eh bien, fêter ce qu'ils viennent de vivre. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle. Des moments de qualité dans la sainteté de Dieu ne nous feront jamais mourir, si ce n'est qu'à nous-mêmes, mais au contraire, vont nous faire vivre. On peut se réjouir, on peut bénir le Seigneur, le célébrer d'un cœur reconnaissant. Philippiens 4:4, vous rappelez, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul ajoute, je le répète, Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ce matin, bien, dans la présence de Dieu, des temps de qualité, mais pour nous faire vivre, pour nous faire nous permettre de nous épanouir, de nous réjouir en lui. C'est ce que nous voulons aussi vivre dans nos moments avec le Seigneur. Et puis, ces moments de qualité, de réjouissance, ne doivent pas aussi nous exempter de veiller sur notre vie spirituelle. Il y a un exemple dans ce texte où il est question des deux neveux de Moïse, hein, donc les fils, les premiers fils de Aaron, Nabal et Abihu. Ils vont vivre aussi quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Et pourtant, ces deux fils d'Aaron qui sont consacrés comme sacrificateurs et qui vont eux aussi officier en tant que tels dans le tabernacle jusqu'au jour où Lévitique, hein, vous avez ce passage où quelque chose de terrible va se passer, puisqu'ils vont offrir, on avait parlé des brûles-parfums dernièrement, ils vont offrir dans ces brûles-parfums un feu étranger à l'Éternel. Alors, le contexte du texte, eh bien, nous dit, est-ce qu'ils ont apporté un feu, une braise qui ne venait pas de l'Holocauste, puisque c'était de l'Holocauste que la braise devait être, peut-être. Est-ce qu'ils ont apporté un autre parfum que celui qui était autorisé? Dans le contexte du texte, est-ce qu'ils étaient aussi ivres? Parce qu'il est question aussi d'une loi qui va être renouvelée. Je ne permets pas aux sacrificateurs qu'ils boivent de l'alcool en officiant devant moi. Est-ce qu'il y avait une autre raison? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont apporté un feu étranger devant Dieu. Et la sanction a été terrible. On peut la considérer comme terrible, nous, avec un recul culturel et puis au niveau des siècles, mais ils sont morts devant le Seigneur. Ils n'ont pas su veiller à leur intégrité, ils n'ont pas su veiller à leur vie spirituelle, ils n'ont pas su veiller à leur propre service. Et dans ce contexte-là, bien, ça a été sanctionné très durement à nos yeux. Quelle que soit l'intensité de nos relations avec Dieu, quelle que soit la révélation que parfois nous pouvons saisir, qu'elle soit angélique, qu'elle soit une apparition de Jésus lui-même, apprenons toujours, ça ne nous décharge pas de veiller au quotidien sur notre vie spirituelle. Veillez et priez, dira le Seigneur. Et malheureusement, en tout cas pour ces deux hommes, ils n'ont pas su veiller au quotidien sur leur propre relation avec le Seigneur. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Ces moments de qualité peuvent devenir les prémices d'autres moments de qualité dans l'avenir. Dieu ne veut pas se limiter simplement à quelques temps de qualité comme ça, par année, allez, deux, trois, comme ça. Mais finalement, un moment de qualité, eh bien, je vais dire ça comme ça, devrait en cacher, en préfigurer un autre. Et puis ainsi de suite. Connaissez hein, les panneaux, un train peut en cacher un autre. Plaise à Dieu qu'un moment de qualité en cache un autre, en suggère un autre. Plaise à Dieu ce matin, et on le voit dans la progression, bien que du camp de base, dans lequel sont ces soldats anciens, eh bien on monte encore un peu plus haut, et puis encore un peu plus haut, et qu'on progresse. Là on parle maintenant des 70 anciens. Il y a un autre épisode dans Nombre 11, versets 16 à 17, etc. Vous pourrez les lire, ils s'affichent, voilà, ils s'affichent. Alors, le contexte est particulier aussi, c'est un moment de contestation. Le peuple de Dieu en a assez avec la manne, cette misérable nourriture, c'est terrible quand même, hein. Ils veulent de la viande, ils veulent des cailles, ils veulent à manger. Et alors, dans ce contexte, eh bien, il y a cette contestation, bien sûr, qui monte, et finalement, à ce moment-là, eh bien, Dieu va répondre en remplissant 70 anciens de son esprit. Et il nous a dit que ça va être le choix de Moïse. Et je pense que Moïse va choisir ces 70 hommes qui étaient avec lui sur la montagne pour que les présentant devant Dieu, ils soient aussi remplis du Saint-Esprit. Et finalement, bien, cette première manifestation de la gloire de Dieu sur la montagne préfigurait une autre, quelque temps plus tard, où ces hommes vont être remplis de l'Esprit, vont prophétiser à travers le camp. Frères et sœurs, le meilleur est toujours devant nous. Et nos moments de qualité ne doivent pas devenir des moments uniques où on dira, bien, à telle date, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais ils doivent préfigurer, inaugurer, nous encourager à en vivre d'autres, avoir cette soif de vivre d'autres moments de qualité et de bénir le Seigneur. Et ce matin, bien, Dieu nous dit, 1 Thessaloniciens 4, 1, 3, progressez encore. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez progresser dans la sainteté. Progressez encore, progressons encore, que je progresse encore ce matin. C'est pas une charge, au contraire, hein, que les moments extraordinaires que je peux vivre aujourd'hui dans sa présence inaugurent d'autres, qui soient encore plus intenses, qui me permettent d'approcher un peu plus de sa présence, le bénir et le servir d'un cœur reconnaissant. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut, bien sûr, pour chacun d'entre nous. Deuxième temps fort, on monte un petit peu en altitude. Ce mont Horeb, ou la montagne de Dieu, on l'a même appelé la montagne de Moïse, elle fait 2285 mètres. Hein, je ne sais pas si certains ont été en Israël, voire sur place, ou en Égypte plutôt. Mais c'est un massif quand même abrupt, il faut imaginer, de granit et de pierres volcaniques. C'est pas très très accueillant, hein, comme massif, c'est plutôt austère. Et pourtant, c'est sur cette montagne, un petit peu austère, eh bien, que Dieu a décidé de rencontrer ses hommes, Moïse, Aaron et puis Josué, etc. Et là encore, juste une parenthèse, même parfois dans nos moments qui nous semblent austères, eh bien Dieu veut privilégier des temps de rencontre avec lui. Amen. Ne désespérons pas. Même dans des moments que nous pouvons vivre comme austère, comme difficile, Dieu veut se révéler. Deuxième temps fort, c'est Exode 24, hein, 12 à 16. Et là, Moïse et Josué se retrouvent seuls, ensemble, pour 6 jours. À ce moment-là, l'histoire du peuple d'Israël est prévue dans le plan de Dieu. Dans quelques semaines, eh bien, Moïse va traverser donc le Jourdain pour installer le peuple de Dieu en Canaan. Sous la conduite de Moïse, c'est le plan de Dieu à ce moment-là. Mais on sait que ce plan va être bouleversé, au moins par 2 événements. D'abord, l'incrédulité communicative de 10 espions, qui va communiquer cette incrédulité à tout le peuple. Et puis la désobéissance de Moïse, hein, devant le rocher de Meriba, où Dieu demande à Moïse de parler au rocher et il va le frapper 2 fois. Et à travers ces 2 éléments, le plan initial de Dieu va être bouleversé. Il va être affecté par le comportement, bien sûr, des hommes, mais Dieu reste souverain. Vous le savez, c'est Josué, l'aide de camp de Moïse, qui deviendra son successeur et qui conduira le peuple dans le pays de Canaan. Première pensée, il y a des projets, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, mais nous devons les saisir, eh bien, dans la foi. Devons les saisir par la foi. Hein, Éphésiens 2:10 nous le rappelle, Dieu a préparé d'avant des œuvres pour que nous puissions les saisir. Et notre état d'esprit, quel que soit l'état d'esprit, eh bien, peut parfois ralentir ces œuvres, les amoindrir, les diminuer, voire parfois les stopper, voire parfois les arrêter tout simplement, celles que Dieu en tout cas avait prévues pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous voulons être aussi conscients de ces réalités. Dieu a préparé des œuvres afin que nous puissions les pratiquer, que nous puissions là aussi nous y investir, que nous puissions les découvrir. Deuxième pensée, c'est que malgré tout, Dieu est souverain. Malgré tout, Dieu est souverain. Le peuple sera conduit dans le pays de Canaan, bien sûr, pas de la manière dont Dieu avait prévu. Il va y avoir pendant 40 ans le peuple qui va tourner en rond dans le désert. Une génération va y mourir, et puis c'est la génération qui va succéder, qui va entrer. Mais Dieu va demeurer quand même souverain. Et même si les hommes, parfois, par leur opposition, leur désobéissance, peuvent contrarier les plans de Dieu, il n'est jamais pris au dépourvu. Dieu demeure souverain. Il est omnipotent, il est omniscient. Il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Et ce matin, nous pouvons nous réjouir malgré tout et avoir de l'espérance. Même si, par rapport à des circonstances extérieures à notre vie, même si parfois il nous semble que des hommes veulent nous barrer la route, des circonstances difficiles, sachons que Dieu, qui nous a dans sa bonne main, n'est jamais pris au dépourvu. Il peut tout, il sait tout, il connaît tout. Amen. Et j'aime bien, il y a peut-être un psaume, voilà, qui s'affiche en même temps, super. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté, il est revêtu, il est saint de force, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Aussi le croyant est ferme, il ne chancelle pas. Frères et sœurs, oui, vous pouvez être peut-être ce matin avec du souci par rapport à un projet de vie, par rapport à quelque chose qui ne se passe pas comme vous avez pensé. Dieu reste aux commandes. Dieu reste aux manettes. Il est souverain. Amen. Il connaît tout, il sait tout. Et même si le plan a été bouleversé par les hommes, eh bien, Dieu malgré tout va rester souverain et conduira son peuple dans le pays promis. Ce que Dieu avait promis, il va l'accomplir. Et puis, il y a la pédagogie de Dieu aussi dans cette deuxième étape qui nous est rapportée entre Moïse et puis Josué. Moïse, sans savoir, est donc en train d'accompagner son successeur. Moïse ne le sait pas. Moïse ne sait pas. Et je pense que Moïse doit expliquer un petit peu à Josué qui ne connaît pas cela, qui doit expliquer ce qui se passe, peut-être le rassurer. Moïse connaît déjà un petit peu le surnaturel de Dieu. Le buisson ardent, c'est ce buisson qui brûle ne se consume pas déjà. Et Moïse a un petit peu l'habitude. Et il doit rassurer Josué, il doit l'encourager, lui expliquer peut-être. Nous, vous savez, on est très spirituel, hein. On se dit, ouais, ils sont tous les deux sur la montagne, etc. C'est super, mais une première manifestation de Dieu comme cela, ça peut quand même impressionner. Et je pense que Moïse, là, joue un petit peu son rôle de père pour que Josué, bien, soit rassuré, qu'il puisse saisir également ce moment. Il le rassure. Et ce matin, je me suis fait cette réflexion. Ça doit quand même nous inciter toujours à porter un regard bienveillant sur nos frères et sœurs, sur les jeunes, sur les ados, sur les enfants, sur les nourrissons. Il y a à nos côtés des bien-aimés dont Dieu va se servir, dont Dieu veut se servir, et qui peut-être ne payent pas de mine. Et pour l'instant, on ne le sait pas. Peut-être que vous êtes assis ce matin à côté de quelqu'un dont Dieu, là aussi certainement, comme pour vous, met un projet particulier. Et cette réalité doit nous inciter ce matin à porter les uns les autres un regard bienveillant, un regard de père, un regard de mère spirituelle. Parce que bien Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour que son nom soit glorifié, mais il y a besoin aussi bien de relève, il y a besoin aussi d'autres ministères, d'autres dons. Et qui sait, hein, si au milieu de nous, ce matin, il y a, alors je vais dire ça comme ça, des futurs missionnaires, des futurs musiciens, des futurs infirmières, etc., ou autres, peu importe, dont Dieu va servir, là aussi, d'une belle réalité. Ayons un regard bienveillant les uns sur les autres. Moïse ne savait absolument pas que Josué allait être son remplaçant en ce moment-là. Et Dieu le savait, Dieu connaissait toutes choses. Et je ne sais plus quel pasteur, enfin qui est devenu pasteur, mais à l'époque il était dans l'école du dimanche, saluait toujours, alors je crois qu'on est en Angleterre dans les années 1800, appelait toujours les enfants de l'école du dimanche « monsieur ou madame ». Et à l'époque, les enfants sont esclaves, travaillent à 14 ans, etc. C'était pas du tout une marque de respect qu'on accordait aux enfants. Alors même les chrétiens étaient étonnés, mais comment cela, hein, comment tu pourquoi tu l'appelles monsieur, madame, il vient de tel quartier, etc. Son père est charbonnier, enfin vous voyez un petit peu tout. Et cet homme de Dieu, j'ai plus son nom, disait ceci en substance, eh bien, c'est parce que bien, je crois que dans ses enfants, il y a de futurs missionnaires, il y a de futurs évangélistes, il y a de futures infirmières, institutrices, etc., qui auront un rôle à jouer dans la société et qui seront des hommes et des femmes de Dieu. C'est extraordinaire. Ayons un regard bienveillant les uns sur les autres. Dieu peut nous surprendre. Dieu nous surprend. Vous savez, hein, on parlait hier avec les jeunes d'un gamin à l'époque, en troisième. Alors, il avait des problèmes, il était dyslexique, il me semble. Enfin, ses notes étaient catastrophiques. Et puis, on ne voulait pas le faire passer dans les classes supérieures. Enfin, voilà, il avait vraiment un avenir maussade que les profs lui décrivaient. Et puis, bien, il a fait de belles expériences avec Dieu, il s'est accroché, etc., etc. Et puis, je crois qu'il termine, il a encore une thèse à faire, hein. Il va devenir dentiste. Donc, si vous voulez le connaître, vous allez à Strasbourg, parce qu'il va exercer là-bas, hein. Mais, quelle belle réussite, devant Dieu, par Dieu, au travers de Dieu. Ah oui, les hommes ont dit, non, lui, en troisième, je sais pas ce qu'il allait faire, mais Dieu avait un autre plan. Ne négligeons pas, ne méprisons pas le frère, la sœur, etc. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et puis, pour Josué, toujours dans cette pédagogie, eh bien, Dieu va lui apprendre aussi à vivre le surnaturel. hein, d'une manière un peu plus intense. On sait que par notre nature charnelle et peut-être très cartésienne en France, on a du mal à saisir le surnaturel de Dieu. On est tellement, tellement limité. Oh, les disciples eux-mêmes, hein. Un jour, ils ont vu Jésus. Oh, c'est un fantôme. Voilà, ils l'ont pris pour un fantôme. Il y a des femmes qui l'ont pris pour le jardinier. Là aussi, leurs yeux étaient obscurcis, etc. Mais que Dieu nous aide aussi dans sa divine pédagogie, comme pour Josué, à nous laisser apprendre à appréhender le surnaturel de Dieu, à être de plus en plus sensible à la voix de son esprit. Il y a un beau parallèle aussi, c'est dans Ézéchiel 47, vous savez, quand l'esprit conduit le prophète dans le fleuve de Dieu, dans le fleuve de l'esprit, au début c'est jusqu'aux chevilles, hein, que notre marche avec Jésus soit imprégnée de la direction de l'esprit, ensuite c'est aux genoux, nos relations, notre communion avec lui, toujours par le Saint-Esprit, et puis la taille qui représente notre autorité aussi spirituelle. Nous devons exercer cette autorité spirituelle. Là aussi, Dieu nous a donné une autorité pour témoigner, pour prier, pour vivre l'Évangile. Et tout cela sous la conduite du Saint-Esprit. Et puis on termine par un dernier temps fort. Alors, celui-ci, bien, il est pour Moïse. Il est pour Moïse, hein, c'est de Exode 24, 16 jusqu'à 18. Et cette fois, Moïse va monter encore plus haut. Voilà. Il va continuer seul de gravir cette montagne. Et Dieu va l'appeler le septième jour, à pénétrer dans la nuée. L'appel vient de la nuée. Et Moïse va pénétrer dans la nuée pendant, je le dis, 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Et il semble sans reposer. Je pense que la présence de Dieu était tellement intense que Moïse va vivre ces moments, j'allais dire, 80 fois 12 heures, hein, dans la présence du Seigneur. Alors, pour conclure, eh bien, ces moments sont une autre étape. Moïse, eh bien, va entrer dans la gloire de Dieu. C'est un moment quand même unique, hein, dans l'histoire de l'humanité, mais qui deviendra pour nous une réalité, pour tous les enfants de Dieu, puisque rappelons-nous quand même ce matin, sommes tous conviés, invités à entrer nous aussi un jour dans la gloire éternelle. Amen. Il y a cette belle parole de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi, croyez en Dieu, il y a plusieurs demeures dans le ciel, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand cette place sera prête, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, où est Jésus en ce moment, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il règne dans toute la gloire, les anges sont à son service, et c'est là dans sa gloire que nous sommes tous appelés aussi à vivre dans l'éternité. Amen. Quelle destinée glorieuse ce matin. Et nous pouvons les saisir un peu plus chaque jour dans nos moments de qualité avec Dieu. Seigneur, merci, merci. Oui, peut-être que la journée va être difficile. Peut-être que le patron va être insupportable, ou les ouvriers, hein, parce qu'on parle toujours des patrons, mais il y a parfois aussi des ouvriers qui peuvent être insupportables. Et Seigneur, le voisin, la voisine, oui, certainement, et on vit ces choses, c'est pas toujours évident. Mais dans ces moments, Seigneur, eh bien, moi aussi je sais que tu es en train de me préparer une place, voilà, dans ton éternité, dans ta gloire. Et quand cette place sera prête, tu viendras me chercher, tu viendras nous chercher. Quelle espérance. Amen. J'avais noté 2 Corinthiens 3:18, je ne sais pas si tu l'as. 2 Corinthiens 3:18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Oui, ce matin, eh bien on se réjouit notre réalité. Et puis La deuxième pensée, c'est que pour Moïse, c'est déjà un avant-goût de l'éternité. Le corps n'est plus soumis au régime du temps. Le corps n'est plus soumis au régime du temps. D'ailleurs, lorsqu'il redescend de la montagne, son visage transparaît. Il y a quelque chose de surnaturel, hein, qui rayonne. Alors, j'ai fait un petit calcul. Psaume 84, 11 nous dit « Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs ». 40 jours sur la montagne pour Moïse. On fait fois 1000, ça fait combien pour Moïse? Ça fait 40 000 jours, et ça fait à peu près 110 ans. Bon, ça c'est du calcul personnel, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la présence de Dieu, Moïse n'a plus la notion du temps, le corps est en dehors du temps. Voilà pourquoi il peut se permettre de ni manger, ni boire, ni dormir. Il est dans la présence de Dieu. Rien ne peut le combler d'autant plus. Il n'a besoin de rien. Il est dans la présence de Dieu. C'est déjà l'avant-goût de l'éternité. Alors, dans sa présence, le temps s'arrête. Il y a plus de temps. Dieu est en dehors du temps. Il maîtrise le temps. Enfin, c'est difficile même pour moi à comprendre, à saisir. Mais là encore, eh bien, ce matin, bénissons le Seigneur pour cette belle réalité de l'éternité qui nous est promise. Hein. Le psaume 27.4 nous dit également ceci, le psaume 27.4, je ne sais pas si je te l'avais donné autrement, je le relis, hein, le psaume 27.4, hein, je peux le lire. Non, mais ça, là c'est de ma faute, je reconnais, hein, psaume 27.4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. C'est une promesse, c'est une prière, eh bien, qui sera exaucée. Nous serons dans sa présence dans l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Moïse et puis le repos de Dieu, il entre dans le repos de Dieu. C'est le septième jour que Dieu l'appelle. C'est le septième jour. Et ça, c'est l'expression du repos. C'est pas de la cessation de toute activité. Mais c'est l'expression finalement de la plénitude de sa présence. Vous avez tous vécu ces moments dans vos vies où, dans la présence de Dieu, il y avait une plénitude, une assurance. Voilà, on était là dans sa présence. Et puis, bien, le temps s'était comme arrêté. Que demander de plus ? On était venu peut-être avec des besoins, des prières légitimes. Mais dans ce moment, bah, il y avait plus de prières légitimes qui s'exerçaient. Parce qu'on était dans sa présence, parce que, eh bien, on était parfaitement comblé et saisi par sa présence. Hein. Il y a un autre vieux cantique qu'on chantera un jour, hein, qui nous dit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi !» Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ! Alors, pour nous qui sommes peut-être fatigués et chargés ce matin, parce que là aussi, ça n'enlève pas notre humanité, nos faiblesses, nos combats du jour. Il y a ce beau verset, là, je sais que, hein, il va s'afficher, Matthieu 11, 28, hein, c'est ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. De la sérénité, du calme, de la confiance, de la stabilité. Malgré ce qui se passe, malgré les choses qui peuvent nous bousculer, on est dans la main du Seigneur. On est comme Moïse, on entre dans son repos, on entre dans ce septième jour, on entre dans ce moment paisible pour nous. Et puis on conclut, Moïse bien va recevoir bien sûr le plan, hein, du tabernacle, les 10 commandements, c'est la révélation bien sûr de Moïse. Et sa présence ce matin est gage et synonyme aussi pour nous de révélation. Et j'ai pas peur d'employer ce mot, où Dieu va révéler à nos cœurs, eh bien, son plan, sa pensée, sa parole, sa direction, on a besoin de lui. Et dans ces moments, eh bien, là, il y a quelque chose de particulier, bien sûr, pour Moïse, mais pour chacun d'entre nous aussi, eh bien, on a besoin de recevoir sa parole, sa direction. On a besoin que nos cœurs soient purifiés. On a besoin aussi que nos cœurs soient sanctifiés. Et c'est dans ces moments d'intimité avec Dieu, par la douce présence de son esprit, eh bien, qu'il va nous purifier. Qu'il va nous dire, écoute, là, oui, ok, bon, ben, allez, je vais t'aider. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Et on ressort de ces moments transformés. On ressort de ces moments. Alors, pour conclure, eh bien, nos moments de montagne, eh bien, doivent nous permettre d'en redescendre. Oui. De redescendre dans nos vallées. Hein. Vous vous souvenez de ce moment où Pierre est sur la montagne avec quelques disciples. Et puis il dit, alors il y a Moïse, il y a Élie, il y a Jésus. Il dit, ah Seigneur, il est bon d'être avec toi sur la montagne. On va planter des tentes, on va rester sur la montagne. Et Jésus va dire, non, maintenant il faut redescendre dans la vallée. Avec ce que vous avez reçu, vous allez redescendre. Et finalement, redescendre. Alors bien sûr, redescendre dans nos vallées. On aimerait tellement rester. On aimerait tellement rester là-haut, dans la communion, etc. Mais on a notre quotidien. De témoins, on a notre quotidien de famille, de travail, et on a appelé à être le sel de la terre. Alors il nous faut redescendre. Mais comment on redescend d'un entretien avec Dieu, de qualité, d'éternité, de gloire, de repos? Eh bien, on redescend, allez, moi j'ai mis quelques mots, hein, vous mettrez les vôtres, on redescend plus fort, on redescend plus inspiré, on redescend plus consacré, on redescend plus dépendant de Dieu, plus obéissant, plus enrichi, puis vous mettrez ce que vous voulez pour cette semaine. Mais sera accepté de la part du Seigneur. Amen. Alors oui, ce matin, on a chanté « Je veux monter sur la montagne ». Eh bien, persévérons dans notre quotidien. eh bien, continuer et encore et toujours à nous approcher de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait avoir un temps de Sainte-Cène, justement, un moment particulier là aussi, eh bien, où on veut ensemble nous approcher de Dieu? On va monter encore sur la montagne, hein, ce matin, au travers de la Sainte-Cène. C'est un temps particulier. Je demanderai peut-être à Jérémie de venir hein, la présenter. Et puis je demanderai aussi donc à Engie et à Innocent hein, de venir aussi pour la partager, la distribuer. Et puis je vous invite, hein, vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui ce matin un jour êtes monté sur cette montagne hein, de sainteté, de grâce, eh bien de pouvoir aussi vous approcher du trône de la grâce, de vous lever pour participer eh bien au repas du Seigneur. Voilà, on se lève, nous qui sommes baptisés, pendant quelques instants encore, et puis hein, Jérémie peut présenter ces moments au Seigneur.